Alors voilà, pour ce matin, je vais vous proposer quelques lectures dans la Bible, bien sûr. Et puis, certains des passages qu'on va lire, je vous les ai déjà proposés en lecture par le passé, mais avec d'autres thèmes que ce matin. Et les thèmes de ce matin seront la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu, l'humilité, parce que pour se confier dans le Seigneur, il faut de l'humilité, hein. On doit être humble, reconnaître qu'on a besoin d'un Dieu, reconnaître qu'on a besoin qu'il vienne à notre secours, reconnaître que c'est lui notre solution et que nous n'avons pas la solution en nous-mêmes. Et puis comme troisième thème, surmonter ses angoisses. Ça va être un petit peu le fil rouge du message de ce matin. Donc la confiance en Dieu, l'humilité et surmonter ses angoisses. Alors, la première lecture, on va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Esther, qui se trouve un petit peu avant Job et avant Psaume. Esther 5, les versets 9 à 14. Esther 5, 9 à 14, et c'est l'histoire un peu connue, et que je vous avais déjà partagée d'ailleurs, de Haman et Mardoché. Je lis. Haman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché qui ne se levait ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenter et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Haman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'il avait fait, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché le juif assis à la porte du roi. » Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent, « Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. » Cet avis plut à Haman, et il fit préparer le bois. Nous voyons dans ce récit deux hommes qui se rencontrent dans une capitale. Cette capitale, c'est Suse. Elle était la capitale de l'Empire perse. Et en effet, quelque temps avant, les Babyloniens avaient été vaincus par les Perses et les déportés juifs sont passés de Babylone à Suse. Hein? Ça s'est passé comme ça. Les Juifs n'ont pas seulement été déportés à Babylone après que Jérusalem soit tombée, mais une fois que Babylone est tombée, les déportés qui étaient à Babylone ont été à nouveau déportés à Suse. Et c'est donc ici, dans la capitale de la Perse, que se déroule le récit que nous venons de lire. Et puis ces deux hommes, Mardoché et Haman, s'étaient déjà rencontrés par le passé. Et déjà, Mardoché avait refusé devant Haman de se courber, de lui faire des révérences. Et ça avait conduit à une énorme persécution contre les Juifs dans tout l'Empire perse. Et voici qu'à une seconde reprise, ces deux hommes se rencontrent et que Mardoché ne fait pas de signe distinctif, de signe d'honneur envers Haman. Pourtant, l'ordre du roi Assuérus, donc le roi perse, avait été donné que tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi devaient fléchir et même se prosterner devant Haman. Ça, c'est Esther 3, verset 2. Mais il y avait un homme qui, lui, ne suivait pas ces directives, et cet homme était Mardoché, simple déporté juif, et qui avait un accès auprès du roi. Pourquoi? Car Esther, sa nièce, était devenue la reine d'Assuérus. Donc sur le plan humain, Haman, il avait tout. Il avait la fortune, il avait la gloire, il avait la puissance, il avait une position d'autorité, il avait la renommée, mais il était craint par ses pairs. Mais quand, une fois de plus, Mardoché ne va ni fléchir le genou, ni se prosterner, et même pas se lever ou se remuer sur le passage d'Aman, alors celui-ci va se remplir de colère et convoquer ses amis et son épouse afin d'être conseillé. Il dira, hein, tous les avantages que j'ai là, pour moi, verset 13, tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché, le juif, assis à la porte du roi. Hein, c'était le seul qui ne faisait pas ses révérences. Vous comprenez qu'il y avait de quoi un petit peu mousser le bonhomme. Et puis, au plus, Mardoché, un simple homme, sans pouvoir, sans richesse, sans titre, sans terre. Mais Mardoché avait quelque chose de plus que Aman. Il avait sa dignité et il avait son intégrité. Et une chose est sûre aussi, qu'il avait de plus que Aman, c'était sa confiance dans le Seigneur, sa foi en Dieu. Et je crois qu'on peut apprendre d'une telle attitude. Moi, je suis en tout cas assez estomaqué de voir un Mardoché comme il se comportait, la foi qu'il avait en Dieu. C'est parce qu'il avait foi en Dieu qu'il n'a pas fléchi le genou devant cet homme. Et Mardoché, même s'il était un homme pauvre, c'était un homme généreux. Pourquoi ? Parce qu'il avait adopté Esther, qui était sa nièce, il l'avait adoptée, parce qu'Esther avait perdu ses deux parents. Hein. Donc Mardoché a eu souci de cet enfant. Et puis plus tard, on voit que c'est un homme généreux qui a le souci aussi de sa fille adoptive, parce que quand il apprend que le roi Assuérus recherche une nouvelle épouse, il va tout de suite penser à sa nièce et il va l'encourager. Hein, il lui aura certainement dit des paroles. La Bible ne nous révèle pas ceci, mais on peut s'imaginer que Mardoché l'encourageait. Mais oui, vas-y, tu es une femme de valeur, tu es une femme qui est belle. Je pense que si Dieu veut, il peut t'ouvrir cette porte et te bénira dans cette fonction. Qui sait quels sont les plans de l'Éternel pour ta vie? Donc, d'un côté, on a Aman qui prend tout pour lui et qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup de richesses. Et de l'autre, on a Mardoché, un pauvre homme, déshérité, sur une terre étrangère, mais un homme qui a beaucoup, parce que c'est un homme qui est intègre, c'est un homme qui a foi dans le Seigneur. Et je pense que, comme je l'ai dit, on a beaucoup à apprendre dans Mardoché. Et vous me permettrez une petite parenthèse d'actualité, et ceci d'autant plus que cela parle d'un Neuchâtelois. Vous avez peut-être appris cette semaine la démission de Didier Bourcalter. Pour le 31 octobre de cette année, et en effet à cette date, il va quitter son poste de conseiller fédéral des affaires étrangères. Alors cet homme, c'est un libéral radical, j'ai rien de spécial contre ce parti, hein. Mais la question, est-ce qu'il était plutôt un Aman ou un Mardoché? Était-il au service du peuple suisse ou du néolibéralisme? Bon, je ne vais pas faire ici le bilan de sa fonction de ministre fédéral, car il y avait du positif comme du négatif. Mais était-il soucieux de la souveraineté de notre nation et des droits des citoyens de ce pays? Là, j'ai quelques doutes. Alors bon, vous avez peut-être écouté le téléjournal à 19h30 ou la radio suisse romande avec plein d'éloges de cet homme qui se sacrifiait pour son peuple ou que sais-je encore. Hein? Mais je me permets une petite critique des médias tels que la radio suisse romande et tels que la télévision suisse romande. Pourquoi? Parce que c'est des radios et c'est une télévision d'État. Alors comment voulez-vous qu'une radio ou une télévision d'État critique la main qui les nourrit? Hein? C'est logique. Vous comprenez? Vous n'aurez jamais une critique forte des grandes lignes du gouvernement ici en Suisse, ni par la télévision suisse romande, ni par la radio suisse romande. C'est impossible. Hein? C'est une ligne qui est là, c'est pas possible. Alors oui, on nous a appris à l'école que la presse était impartiale, et je crois qu'il y a même un journal qui s'appelle L'Impartial. Alors, permettez-moi d'en douter fortement, hein, soyons quand même pas trop naïfs quelque part, pardon, hein, j'ose le terme naïf, hein, mais il y a des fois comme ça des dogmes dans nos vies qu'il faut briser. La presse n'est pas impartiale. Et ça, c'est un dogme au nom du Seigneur Tout-Puissant, je fais un petit peu d'humour, mais qui soit brisé dans nos vies aussi, parce que osons être un peu critiques des informations qu'on nous balance à longueur de journée, et on nous dit c'est impartial. Donc si c'est impartial, il faut y croire, c'est plus beau que neige. Eh ben non. Donc, notre cher ami Didier Burkhalter était-il un Aman ou un Mardoché? Je vous laisse la réponse. Alors, revenons à notre récit biblique. Aman voulait toute la gloire pour lui, alors que Mardoché avait le souci du bien-être des gens qui l'entouraient. Aman était un comploteur et un manipulateur, alors que Mardoché était un homme sincère et au service des autres. D'ailleurs, le service, Jésus-Christ lui-même en a parlé. Dans Luc 22, je vais lire un passage dans Luc 22, les versets 24 à 30. Et c'est lors du dernier repas du Seigneur, un texte qui nous est aussi bien connu. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés les bienfaiteurs. » Est-ce que ça a vraiment changé aujourd'hui ? « Qu'il ne soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui serve. Car quel est le plus grand ? Celui qui est à la table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » On connaît ce récit, hein, quand même assez magnifique, se dire c'est le dernier repas du Seigneur, les disciples sont là en train de se chamailler comme des petits enfants, comme des adolescents. Pourtant, ils avaient passé 3 ans à entendre les enseignements du Seigneur, ils avaient passé 3 ans de vie commune, 3 ans de vie commune, ça vous marque. Je ne sais pas si vous avez vécu 3 ans de manière en groupe, quoi, hein, en colonie pendant 3 ans, ou que sais-je, même une semaine de colonie, peut-être vous vous en rappelez. Alors imaginez-vous 3 ans comme ça de vie commune, ça vous marque. Et puis, c'est le dernier repas. Et il y a une grande discussion qui s'annonce. Pourquoi ? Pour savoir qui allait chercher l'eau au puits, hein, pour la vaisselle, ou qui allait faire la vaisselle, ou qui allait ranger la table, ou qui allait nettoyer la salle où vous avez pu manger ensemble. Non, pour savoir qui est le plus grand. Et on voit bien que c'est bien humain. Mais des fois, nous, dans notre chemin aussi avec le Seigneur, nous avons aussi des pensées bien humaines. Voyons quelques instants l'enseignement du Seigneur. Luc 22, verset 25. Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il ne soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Tout un programme, hein? Si on pouvait vivre comme ça. Si nos politiciens pouvaient vivre aussi comme ça, hein, que celui qui gouverne soit comme celui qui serve. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre beau pays, il aurait une toute autre figure. On connaîtrait quelque chose de complètement différent dans cette nation. Je ne dis pas que tous les politiciens sont là que pour servir eux-mêmes, mais quand même, je pense qu'il y a du boulot. Dieu a besoin encore de travailler leur cœur comme il a besoin de travailler le nôtre. Voilà. Qu'il ne soit pas de même parmi vous. Les rois des nations, hein, ceux qui les dominent, sont appelés bienfaiteurs. C'est vrai, il y a des gens, ils vont se donner des grands titres. vont faire des grandes œuvres de bienfaisance. Puis de l'autre côté, hein, c'est un peu comme pour se redonner une nouvelle virginité. De l'autre côté, alors, ils sont ouverts à tout vent et ils sont prêts à vendre leur âme et même leur nation à des enjeux internationaux. Nous sommes donc appelés à servir et n'ayons pas honte de servir nos frères, n'ayons pas honte de servir l'Église, n'ayons pas honte de servir nos proches. Luc 22, verset 28, « Vous, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Si nous persévérons avec le Seigneur, alors nous prendrons part aux noces de l'agneau. Ce sera bien plus que des noces d'argent, des noces d'or. Comment ça continue après? C'est les noces de platine, hein? Diamant? Voilà, je connais pas forcément la suite, hein. Mais les noces de l'agneau, ce sera bien plus que cela. Ce sera quelque chose de bien plus glorieux, quelque chose de bien plus merveilleux. Je pense qu'on en a qu'une petite idée de ce moment-là où on va pouvoir vivre avec le Seigneur dans ce moment de restauration, dans ce moment qui nous permettra de contempler la suite, de contempler la gloire de Dieu, de contempler les projets que le Seigneur a pour chacune de nos vies, parce que Dieu nous donnera aussi une position d'autorité, une position de responsabilité dans le royaume qui viendra. Amen. Vous êtes de ceux qui ont persévéré dans mes épreuves. Le Seigneur ici reconnaît que de le suivre, c'est pas tout facile, hein, c'est pas de tout repos. Il y a des épreuves pour ceux qui suivent le Seigneur. Comme Mardochée lui-même a connu aussi des épreuves, il a connu des moments périlleux. Et nous aussi, nous pouvons passer par des temps difficiles. Mais Dieu, ce matin, nous rappelle à continuer sur la voie de Mardochée, en nous confiant dans le Seigneur, en mettant notre foi en Jésus. Car Dieu est suffisamment puissant pour nous secourir dans toutes nos situations. Il n'est pas dépassé par les événements qui peuvent surgir dans nos vies quotidiennes. Vous connaissez, je pense aussi, ce passage en Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, qui dit ceci, verset 3, en Corinthiens 10, verset 13, pardon, en Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ou aucune épreuve, hein, pourrait traduire aussi comme ça, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la surmonter. Aucune tentation, aucune épreuve qui est survenue dans nos vies n'a été humaine. Et Dieu est fidèle. Et il ne va pas permettre qu'on soit tenté, éprouvé, au-delà de nos forces. Mais dans l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin qu'on puisse la supporter. Dans l'épreuve, Dieu n'est pas surpris, Dieu n'est pas dépassé par les événements qui peuvent arriver dans nos vies. Dieu prépare aussi une porte de sortie. Comment ? Par la prière. Par la prière, Dieu nous révélera, Dieu nous conduira, Dieu nous donnera la sagesse. Dieu nous permettra peut-être de croiser aussi la bonne personne qui sera de bons conseils pour notre situation difficile. On se rappelle là, juste par rapport à Aman, quand il était entre guillemets dans son épreuve, hein, mais c'était pour sa propre gloire, hein, c'était sa frustration plutôt, il a appelé ses amis et son épouse. Il a cherché conseil, mais il a cherché conseil auprès des personnes qui pensaient comme lui. Et soyons prudents. Si nous cherchons conseil auprès de personnes qui recherchent la pensée du Seigneur, et pas forcément qu'ils vont dire « oui, 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 c'est très bien, bravo, hein, je te félicite ». Parce que si Aman avait été conseillé par quelqu'un de pieux, des personnes dans la sagesse du Seigneur, peut-être que sa vie n'aurait pas fini aussi tragiquement. Vous savez, hein, comment elle a terminé, voilà, l'échafaud a été pour lui. Dans nos vies, quand nous cherchons une direction et quand nous cherchons conseil, n'ayons pas peur de nous frotter peut-être à quelqu'un qui n'aura pas la même pensée que nous. Parce que ça ne veut pas dire que cette personne aura tout juste sur tout, mais peut-être ça va nous aiguiller quand même dans notre vie un petit peu différemment. Amen. Dans l'épreuve, Dieu est là. Nous sommes assurés qu'il est à nos côtés. Et bien plus encore qu'il est de notre côté. Hein? Dans l'épreuve, Dieu n'est pas seulement à côté de nous, mais il est aussi de notre côté. Et il prépare une porte de sortie pour nous. Amen. Et c'est par la foi, et c'est par la confiance dans le Seigneur qu'on pourra continuer, qu'on pourra persévérer si le chemin est difficile. Dans l'épreuve, Dieu est là. Et il va nous aider, il va nous soutenir. On a chanté avant que dans nos combats, que Dieu était notre égide. Hein? C'est quoi une égide? C'est comme un bouclier en fait, on pourrait dire c'est un bouclier, mais c'est un bouclier un petit peu spécial parce que ça vient de la mythologie grecque. Et puis c'était le bouclier de Zeus qui était un bouclier non seulement défensif, parce que quand on pense bouclier, on pense à quelque chose de défensif, mais c'était aussi un bouclier offensif. Et en fait, ça symbolisait, ce bouclier symbolisait quoi? Ça symbolisait la puissance souveraine. Donc, dans nos combats, Dieu est souverain avec nous. Sa puissance est là pour nous soutenir, non seulement pour nous défendre, mais aussi pour nous donner la victoire. Amen. Dieu est souverain de nos épreuves. Il est là, c'est lui qui va nous défendre, mais c'est lui aussi qui va nous donner la victoire. Alors, comme je disais, moi je suis impressionné par Mardoché, cet homme, la confiance qu'il plaçait en Dieu. Et puis des fois je me dis, c'est bien d'avoir un super exemple là, mais moi honnêtement je ne suis pas toujours un Mardoché. Hein? Quand vient l'épreuve, quand vient les difficultés, je n'ai pas toujours le réflexe de la foi. Et puis, oh super chic, une épreuve encore, yes! Je sais que Dieu est souverain, il est là, sa main toute puissante est sur ma vie. Moi, je n'ai pas forcément ce réflexe en premier. Et je me dis, mais comment alors, bon Seigneur, merci, tu m'as donné un magnifique témoin de foi qui est Mardoché. Mais moi, je suis désolé, je ne suis pas à ce niveau-là. Comment rester dans cette confiance dans le Seigneur? Et il y a un texte qui nous parle d'un homme de Dieu. Cet homme s'appelle Jacob. Et puis, on va voir que lui, il n'a pas tout le temps été dans la confiance. Et pourtant, le Seigneur était avec lui. Parce qu'après, Dieu n'aura pas honte de se présenter comme étant le Dieu de Jacob. Hein? Pourtant, Jacob, des fois, la confiance, ça lui a manqué. Alors, on va lire un petit passage biblique de Genèse 32. Genèse 32, les versets 24 à 28. C'est un passage aussi que je vous ai déjà partagé et qui est bien connu. Genèse 32, versets 24 à 28. C'est le passage où Jacob avait fui Laban après 20 années de service dans la maison de Laban. Hein. Il avait fui Laban et puis maintenant il devait aller à la rencontre de son frère Ésaü. Et c'est la nuit avant cette rencontre que Jacob se retrouve dans bien des combats, dans bien des tourments. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Donc, Jacob ici, il manque de foi. Dans sa situation, il manque de foi. Il vient de quitter Laban avec un manque de foi, hein. Il a fui Laban. Laban d'ailleurs l'a rattrapé, hein, pour dire, mais attends, tu quittes ma maison comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Jacob a vraiment manqué de foi, il aurait pu discuter avec Laban et lui expliquer sa situation. Écoute, je sens que Dieu m'appelle à entrer dans un temps nouveau, je sens que mon temps avec toi il est terminé, je te remercie pour tout ceci. Et maintenant ça fait 20 ans que je te sers, mais je crois qu'il y a une étape nouvelle que Dieu m'appelle. Alors, Jacob il fait pas comme ça, il fuit. Il avait déjà fui la maison de ses parents, hein, et il avait fui aussi la haine d'Ésaü. Ésaü avait de quoi avoir de la haine envers Jacob parce que Jacob lui avait volé sa bénédiction. Et voilà notre homme qui fuit. Et puis à un moment donné, il se retrouve là, incapable de fuir. Et un combat se met en place. Et je crois qu'on peut vraiment comprendre ce combat de manière symbolique. C'est comme les angoisses qui empêchent Jacob de dormir. Il se retrouve seul. Il va prier. Il sait que ça peut vraiment très mal se passer. Sur son cœur, c'est le trouble. Et le trouble est tellement fort, et les angoisses sont tellement fortes, que non seulement la fatigue n'est pas là, et le sommeil lui échappe complètement, mais que dans ce combat-là, en fait, il va se retrouver à combattre contre qui ? Contre Dieu lui-même. Et des fois, je pense aussi que nos angoisses, c'est comme un combat. C'est comme un combat aussi qu'on mène sans le réaliser, parce que Jacob ne le réalisait pas dans ce moment-là. Il ne réalisait pas qu'il était en train de combattre contre Dieu. J'ai vu la face de Dieu, et mon âme n'a pas été détruite. Jacob ne reconnaîtra que par la suite. Et comment est-ce qu'il a pu reconnaître ça ? C'est que dans ce combat-là, tout à coup, Dieu l'arrête. Comment ? Il va lui démettre la hanche. Je pense que ça ne va pas faire du bien. Hein? Et puis, comment voulez-vous continuer un combat avec la hanche d'ennemi ? C'est juste impossible. Hein? Tout d'un coup, notre ami Jacob, il est stoppé net dans son combat. Et je pense que des fois, Dieu nous arrête aussi net dans notre combat par rapport à nos pensées d'angoisse. Et ces pensées d'angoisse qui nous empêchent de mettre notre confiance dans le Seigneur, qui nous empêchent d'aller de l'avant, d'entrer dans un temps nouveau, d'entrer dans des nouvelles étapes, ou de faire confiance dans le Seigneur qu'il est là, il est souverain. Il est souverain. Il est notre égide, il est notre bouclier, notre défenseur. Il est aussi celui qui va nous donner la victoire. Amen. Quand Jacob est stoppé dans ce combat, tout à coup ses yeux s'ouvrent. « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Et Dieu va lui répondre, « Quel est ton nom ? Jacob. » Jacob, ce n'était pas un nom terrible, hein, ça voulait dire usurpateur, hein, celui qui prend la place de. Et Jacob, jusque-là, c'était un petit peu ça. Il avait cherché à prendre la place de son frère. Il avait cherché, non par la foi, parce que oui, il avait des promesses divines sur sa vie, mais il avait cherché par lui-même. Il avait manqué d'humilité. Il avait cherché par lui-même, même à tromper son père. C'est quand même grave pour recevoir une bénédiction. Ce n'était pas la volonté du Seigneur qu'il fasse les choses comme ça. Il avait manqué d'humilité, il avait manqué le temps du Seigneur pour ses bénédictions. Mais 20 ans à servir dans la maison de Laban, il a fallu 20 ans pour que Jacob entre dans une nouvelle partie de sa vie. Et Dieu va lui dire, parce que Dieu savait comment Jacob s'appelait, hein, tu t'appelles comment? Dieu peut-il oublier le nom de ses enfants, lui qui compte chacun de nos cheveux? Dieu connaissait Jacob, bien sûr. Mais il lui dit, mais tu t'appelles plus Jacob maintenant, tu t'appelles Israël.
tu es celui qui a lutté avec Dieu et avec les hommes et tu étais vainqueur. Et Israël, ça peut dire autant celui qui lutte avec Dieu que celui qui lutte contre Dieu. Pour dire qu'il y a comme un paradoxe dans ce nom. Et c'est vrai que des fois, c'est aussi le paradoxe de nos vies. Des fois, nous aussi, comme Jacob, on ne réalise pas. Mais on lutte contre Dieu. Pourquoi ? Par manque de confiance. Ou peut-être aussi par manque d'humilité, parce qu'on veut entrer dans les promesses du Seigneur. On veut entrer dans ce que Dieu en réserve pour nous. Ce n'est pas facile. Hein? Mais vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi. Alors persévérons. Demandons la confiance dans le Seigneur. Si Dieu n'a pas eu honte par la suite de s'appeler le Dieu de Jacob, je me dis que peut-être, dans la grâce du Seigneur, il n'aura pas honte un jour aussi de dire « Je suis le Dieu d'Alexandre ». Alors, en conclusion, on a vu le récit de ces deux hommes, Aman et Mardoché, un homme humble, mais qui faisait confiance dans le Seigneur. On a vu aussi Jacob, un homme qui, où des promesses avaient été placées sur sa vie. Et il y a des promesses de Dieu aussi sur ta vie. Mais un homme qui a essayé par lui-même, un homme qui a rusé pour qu'un jour Dieu l'arrête et que face à ses angoisses, il réalise qu'il était en train de lutter contre le plan du Seigneur. Que le Seigneur soit notre secours, que le Seigneur soit notre égide, que Dieu nous donne sa victoire, qu'il nous relève, qu'il nous montre la porte de sortie de secours dans nos épreuves. Parce qu'un jour, nous fêterons, nous célébrerons ensemble les noces de l'agneau. Amen. Bon dimanche.